Achille se réveille en sursaut. Il a fait une nouvelle fois ce rêve. Un rêve qui l'obsède. L'écho persistant du choix auquel sa mère, Thétis, l'a confronté au moment de son départ pour Troie. Soit combattre aux côtés des Grecs et voir son nom célébré jusqu'à la fin des temps, mais mourir en accomplissant ses exploits. Soit rester chez lui, auprès des siens, vivre avec la femme qu'il aime, une existence longue, belle, bénie des dieux, mais renoncer à la gloire qui traverse les siècles. Devant lui, Ajax et Ulysse. Ils sont venus lui dire qu'Agamemnon, le roi des rois, le priait humblement de revenir au cœur des combats, qu'il lui rendait Briseis et le comblait de plus de cadeaux qu'il ne pouvait en espérer. Achille fixe ses compagnons. Oui, son choix est fait. Il ne restera pas sous sa tente. Mais il ne combattra plus pour Agamemnon. Il rentre en Grèce. Et il conseille à ses compagnons d'en faire autant. Il leur rappelle que s'il a accepté de venir faire cette guerre, c'est uniquement parce que tel était son bon plaisir, et non pour venger l'honneur d'un mari trompé, fût-il Ménélas, le propre frère d'Agamemnon, le roi des rois. Ulysse reste sans voix. Alors, la guerre de Troie est perdue pour les Grecs. Achille s'enfonce dans sa rancune. Puisse cette arrogance ne pas attirer sur lui la colère des dieux. Au même instant, à Troie, Priam et ses généraux exultent. Le vieux roi est désormais convaincu que la victoire n'est plus qu'une question d'heure. Les Grecs ont perdu la faveur des dieux. Leurs pertes sont de plus en plus lourdes. Ce soir, le mur que les Grecs ont érigé pour protéger leur nef sera détruit. Et il ne restera plus aux Troyens qu'à incendier leur navire. Hector acquiesce. Oui, bien sûr, les Grecs sont à genoux. Mais ils résistent. Et tous les assauts qu'ils mènent, lui, Hector, sont repoussés. Le fils de Priam est-il ici le seul conscient de la fragilité de la position troyenne? Il sait que Troie ne pourra vaincre tant qu'Athéna penchera du côté des Grecs. Elle est déesse de la guerre. C'est elle qui empêche les Troyens d'en finir avec les Grecs. Hector a une idée. Que les Troyens, désormais, honorent la déesse. Qu'ils lui établissent un culte à égalité avec les autres dieux protecteurs de Troie. Apollon, Artémis et Aphrodite. Priam écoute son fils et balaye d'un geste sa proposition. Il craint d'offenser les dieux qui défendent son peuple s'il offre à Athéna d'être reconnue comme l'une des déesses de Troie. Non, rien ne sert de ruser avec la déesse de la ruse. Il faut attaquer sans tarder. Apollon guidera le bras d'Hector, et le dieu de la lumière sera plus fort que la déesse de la guerre. Soit. Hector obéira à son père. Mais un sombre pressentiment le saisit. Il ajuste son armure. prend son épée et son javelot, marche d'un pas décidé vers les portes de Troie. Énée le rejoint. Ensemble, les deux généraux troyens haranguent leurs cavaliers, puis ils lancent leurs chevaux au grand galop jusqu'aux dunes où campe l'armée grecque. À nouveau, le choc est effroyable. À nouveau, les Troyens s'engouffrent. À nouveau, les Grecs reculent. Sous sa tente, Achille écoute avec indifférence la clameur de la bataille. Un jeune page entre, craintif. D'une voix blanche, il lui annonce que le roi des rois, Agamemnon, vient d'être blessé. Une flèche lui a perforé l'épaule. Et le fougueux Diomède, lui aussi, vient d'être touché. Achille ne bronche pas. Rien ne semble pouvoir arrêter les Troyens. De même que les chasseurs épuisent un sanglier dans l'épaisseur d'un bois, de même, les hommes d'Hector se pressent autour d'Ulysse. On dirait des loups affamés. Une lance frappe le bouclier du roi d'Ithaque. Mais au moment où elle va pénétrer dans les entrailles du Grec, une main invisible la détourne. Celle d'Athéna. Ulysse est sauvé. Mais une flèche troyenne le frappe à la cuisse. Il faut le secourir. Ajax et Ménélas, au prix d'une lutte acharnée, parviennent à l'arracher au champ de bataille. Les Troyens sèment l'effroi dans les rangs grecs. Dans un fracas prodigieux, les palissades s'effondrent, les remparts se brisent. Dans la grande muraille érigée par les Grecs pour protéger leurs navires, une longue brèche se dessine comme une plaie béante. Partout, des chars renversés, des chevaux éventrés, des bras, des têtes qui roulent à terre, des blessés qui agonisent les uns sur les autres. Une clameur immense monte vers le ciel. Jusque sur l'Olympe. Loin de la fureur des hommes, Héra observe impuissante la débâcle grecque. Ainsi, Zeus leur a interdit le champ de bataille, mais il a pris le parti des Troyens pour complaire à une déesse de second ordre, Thétis. Il n'a pas puni Arès, qui excite les troupes d'Hector, ni Athéna, sa fille chérie, qui vient d'éviter à Ulysse une mort certaine. Héra désigne aux dieux le théâtre des opérations. Les hommes d'Agamemnon ne résisteront plus longtemps si les divinités censées les protéger n'osent pas leur porter secours. Les dieux de l'Olympe entendent-ils vivre indéfiniment au gré de Zeus? L'un d'eux ne peut cacher son agacement. Poséidon, celui qu'on appelle l'ébranleur du sol, ne supporte plus que son frère Zeus lui dicte une nouvelle fois sa conduite. Il trépigne. Mais tous les dieux, y compris l'ombrageux Poséidon, se récusent. Ils ont juré au maître de l'Olympe de désormais rester neutre et n'ont aucune envie d'encourir sa foudre et ses châtiments. Alors Hera regagne ses appartements. Une idée lui vient. Elle prend un bain, se coiffe, dépose quelques gouttes d'huile parfumée sur son cou, se pare des étoffes les plus séduisantes qui soient et se rend chez sa grande rivale, Aphrodite. Depuis le début de la guerre de Troie, les deux déesses se vouent une haine sans limite. Hera n'a pas accepté qu'Aphrodite soit désignée par le jeune Paris comme la plus belle de toutes les déesses. C'est pour cela qu'elle soutient les Grecs face à Aphrodite, qui protège Paris et les Troyens. Les deux déesses sont face à face. Entre deux sanglots, Hera vient reconnaître sa défaite. Le sort de la guerre de Troie est désormais scellé. Aphrodite et ses protégés ont gagné. Les Grecs sont vaincus. Pour Hera, il ne reste plus qu'à tenter de reconquérir les faveurs de son époux, Zeus. Et pour cela, elle sollicite l'aide de la déesse sortie vainqueur de ce conflit et de leur querelle. Elle supplie Aphrodite de lui prêter sa ceinture. Cette fameuse ceinture brodée où sont enfermés ses charmes. Cette ceinture qui ensorcelle quiconque la porte et permet de séduire les êtres les plus insensibles. Celle-là même qui, jadis, fut offerte à Paris. Aphrodite jubile. Ainsi, elle a gagné. Et même la redoutable Hera vient se soumettre. Elle accepte. Elle concédera à sa rivale vaincue l'amour, le désir, par lesquels sont terrassés mortels et immortels, afin que Zeus revienne à elle et que l'unité règne à nouveau parmi les dieux de l'Olympe. Elle dénoue la ceinture brodée, la met dans la main d'Héra et lui affirme qu'elle ne retournera pas sur l'Olympe sans avoir obtenu ce qu'en son cœur elle désire. Héra se rend alors auprès de son divin époux. Elle se fait humble, mais aussi enjôleuse. Et elle lui demande l'autorisation de regagner sa couche. Le désir voile aussitôt l'esprit de prudence du grand Zeus. Et comme au premier jour, l'un et l'autre s'unissent. Mais Hera n'en reste pas là. Dans le plus grand secret, elle a obtenu du dieu Hypnos, le dieu du sommeil, qu'il la suive à bonne distance. Elle lui a fait croire que le puissant Zeus désirait se reposer, mais ne parvenait plus à trouver le sommeil. Juste après leurs ébats,